Do you recall what once I told you? That glimstone is the amber of the cosmos, and sorcery is the study of the stars and the life therein. When you become Elden Lord, please illuminate me. Lay bare the secrets of life which course the Elden Ring.
Si je vous disais que dans Elden Ring, la destinée de chaque être, de chaque demi-dieu, de chaque dieu, était gouvernée par les étoiles. De tout temps, la cosmologie a permis à l'être humain de dépasser sa simple condition d'être humain et de tenter d'expliquer son univers en étudiant le mouvement de ses astres. Presque 2000 ans avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens considéraient déjà les planètes du système solaire comme un symbole des dieux, Jupiter pour Marduk, Vénus pour Ishtar, etc. Ces croyances se sont évidemment poursuivies et propagées en Occident. Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, l'homme a longtemps considéré que sa destinée était liée à celle des astres, et encore aujourd'hui, bien que déclinante, ses croyances vivent toujours au travers de l'astrologie. L'univers d'Elden Ring s'inscrivant dans un courant de nombreuses croyances et symboliques, il n'y échappe pas. Si les étoiles président à nos destinées, alors les astres nimbés d'ambre doivent gouverner celle des dieux. Si Rani ne peut pas accomplir sa destinée, si Selene ne peut pas encore retrouver un véritable corps, c'est parce que le mouvement des étoiles a été stoppé par Radahn. Et tant que le mouvement des astres n'aura pas repris, le destin de ces personnages ne pourra pas s'accomplir. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue pour plonger avec moi dans l'histoire cosmique des sorciers primordiaux et du courant originel. Dans les temps les plus anciens de l'Entre-Terre, à une époque où les astrologues s'établissaient aux côtés des géants au nord, l'un d'entre eux eut une vision, un nuage sombre d'étoiles dans les airs, qui après un court instant, libéra une violente pluie d'étoiles primordiales. D'aucuns disent qu'il s'agirait de la toute première sorcellerie des pierres d'éclat. La vision du courant originel telle que vue par l'astrologue prit vie, et les étoiles se mirent à pleuvoir sur ces terres. De cette union, entre les astrologues et les géants, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est un héritage, une arme forgée pour sceller et symboliser cette dualité, l'épée de la nuit ardente, une épée capable de projeter aussi bien une comète nocturne qu'un nuage de flammes en arc de cercle. Mais qu'est-ce que le courant originel exactement? Un flux de puissance cosmique? Une rivière de la vie, si on se risque à faire des parallèles avec la diégèse de Final Fantasy VII? Un Big Bang qui aurait donné naissance à l'entre-terre? S'il fallait matérialiser ce concept dans Elden Ring, ce qui s'en rapprocherait le plus serait certainement la comète d'Azur, semblable à une lointaine étendue stellaire d'où les pierres d'éclat tireraient leur origine. Mais je préfère le voir comme quelque chose d'immatériel, impalpable, un flot circulant dans les limbes de l'entre-terre et seulement accessible à de rares initiés. Enfin, que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage et de toute cette première sorcellerie originelle? Les astrologues ont depuis longtemps disparu, mais leur magie s'exprime maintenant sous d'autres formes, comme un écho, un résidu de cette époque. Nocron, la ville éternelle, l'académie de Raya Lucaria, le manoir de la famille Caria. Les Nocriens ont eux aussi disparu, ou tout du moins ont été enfouis sous un faux ciel de pierre d'éclat. Mais leur magie, elle, demeure, centralisée en un seul lieu, l'académie de Raya Lucaria. Si à nos yeux, l'académie est aujourd'hui gérée par la famille Caria et sa matriarche Renala, ce ne fut pas toujours le cas. Ce qui explique qu'à sa création, on y pratiquait uniquement une sorcellerie de pierre d'éclat, délaissant ainsi toute magie liée à la lune, si chère aux Nocriens, mais considérée comme hérétique. Sorcellerie de pierre d'éclat, représentée par une couleur vert émeraude que l'on va retrouver sur les masques, mais aussi sur les bâtons. À cette époque, deux sorciers particulièrement puissants se distinguent. Azur, qui fut à l'origine du cursus de Carolos, une école de pensée vouée à l'étude des comètes, et Lussat qui créa le cursus d'Olivinus dédié à l'étude des météores. Si ces deux courants se réclament bien de la sorcellerie de Pierre d'Éclat, ils présentent leurs différences. Ainsi, on apprend que les sorts de l'école d'Olivinus attiraient jusqu'aux sorciers de Célia, ce qui est intéressant dans la mesure où les Célians se réclamaient de l'héritage des Nocriens, plus proche de la Lune, mais nous y reviendrons. J'aimerais avant ça m'attarder sur une autre forme de sorcellerie, les sorcelleries telluriques, intéressantes car réservées uniquement aux étudiants en échec de l'académie. Il s'agit de sorts d'excavation utilisés par les mineurs de Pierre d'Éclat dans les galeries cristallines. Vous avez alors peut-être déjà compris, mais on peut donc imaginer que ces mineurs soient d'anciens élèves de l'académie, trop faibles pour rejoindre un quelconque cursus, et qui ont été reconditionnés pour extraire et exploiter la pierre d'éclat au profit de l'académie. Ce qui nous amène à évoquer la suite pour Raya Lucaria, et l'arrivée d'une astrologue, une jeune astrologue qui déambulait en contemplant le ciel nocturne. Une astrologue qui avait poursuivi des étoiles à chaque instant de son périple, puis qui fit la rencontre de la pleine lune. Une astrologue qui fut couronnée reine. Dans sa jeunesse, Rhenala était une championne de premier ordre, qui séduisit l'académie de par sa magie lunaire jusqu'à en devenir la maîtresse. Elle prit également la tête des chevaliers de Pierre d'Éclat et instaura la maison Caria en tant que famille royale. Il m'apparaît évident que quand Rhenala et la famille Caria arrivent au pouvoir, la magie lunaire reprend sa place et son influence à l'académie, qui était jusque-là concentrée uniquement sur le mouvement des étoiles et la sorcellerie de Pierre d'Éclat. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a mis le feu aux poudres entre l'académie et l'ordre d'or, représentés par Radagon et Marika, qui n'ont pas dû voir d'un très bon œil que l'héritage des Nocriens refasse surface en Entre-Terre. Mais attention, car si on devait catégoriser Rhenala, il conviendrait de la considérer comme une modérée dans ce domaine. Il s'agit en effet de distinguer la pleine lune que vénère la matriarche de la lune noire qui était priée par les Nocriens. À en croire les éléments qui gravitent autour de sa fille Rani, Rhenala avait même une sainte peur de la lune noire, peur que sa mentor, la sorcière de Givre, tentât d'inculquer à la princesse, sans grand succès manifestement. Mais je m'égare, car ce qu'il convient de noter, c'est que Rhenala entendait bien instaurer une nouvelle forme de magie à l'académie, la sorcellerie de Caria, une sorcellerie que l'on pourrait considérer comme plus offensive, guerrière, et manipulé par les célèbres chevaliers enchantés dont il ne reste plus grand chose aujourd'hui. L'un de leurs derniers représentants se nomme Moongram, qui de par son nom peut évidemment être relié à la magie lunaire et qui continue encore aujourd'hui de protéger l'accès à sa matriarche. Mais ce n'est pas le seul, car cette magie était également accessible à Loretta, l'enchanteresse royale, dont les rumeurs disaient qu'elle était albinorique et qui développa ses propres sorcelleries. Enfin, comment ne pas mentionner les trolls enchantés, dont on dit qu'ils étaient liés par un serment à Rhenala depuis sa jeunesse. Quand et comment ce serment a-t-il pu être mis en place? Ces événements ont-ils un lien avec la guerre de l'Ordre d'Or contre les géants et la trahison des trolls à leur égard? Je trouve amusant en tout cas de souligner la symbolique de la relation entre la famille Caria et les trolls, qui peut être vue comme un parallèle de celle qui existait entre les astrologues et les géants, les Caria, héritiers spirituels des astrologues, qui pactisent avec les trolls, descendants des géants. Mais une question subsiste alors, quelle différence entre la sorcellerie de Pierre d'Éclat originale et celle des Caria? Je l'ai dit, l'apport de la magie lunaire bien sûr, mais surtout le fait qu'elle s'appuie sur une pierre d'éclat légèrement différente, de couleur bleu nuit, que je pense être la pierre de lapis lazuli. L'apport de cette nouvelle forme de pierre d'éclat a, de mon point de vue, provoqué un virage au sein du cursus d'Olivinus, et plus précisément chez Maître Lussat, qui s'est plongé plus profondément dans cette forme de magie. Ceci est bien visible quand on s'intéresse aux objets liés à ce dernier, car si le masque d'Olivinus est bien serti de pierres vert émeraude, Lussat, lui, utilise un bâton serti de pierres couleur bleu nuit, caractéristique du lapis lazuli, tout comme le globe oculaire qu'il arbore. Curieux d'ailleurs de noter la ressemblance entre ce globe et l'œil de Astel, le rejeton du vide. Enfin, pas si curieux que ça en réalité, dans la mesure où le cursus d'Olivinus, initié par Lussat, s'intéressait aux météores et que Astel provient justement d'une chute de météorites. Ce dont on est sûr, c'est que le lapis lazuli a créé des dissensions au sein de l'académie et a même été à l'origine d'un nouveau cursus, le cursus de lazuli. Ces érudits, qui s'étaient initialement dévoués à l'étude des sorcelleries de Caria, finirent par diverger, plaçant la lune sur un pied d'égalité avec les étoiles. Cette robe, aux couleurs de la pleine lune, est le symbole de leur hérésie. On voit donc bien le virage qui s'est opéré à Raya Lucaria, entre une magie qui se basait uniquement sur les étoiles, puis qui, après l'arrivée des Caria, s'est vue peu à peu parasitée par cette nouvelle forme de magie. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais ces différentes écoles de pensée, ces cursus, se manifestent au travers des masques qu'arboreront chaque sorcier. Si on prend la peine d'observer les tableaux, dans le salon de débat de l'académie, on y voit évidemment des personnages reconnaissables, comme Sélène ou Rénala. Mais pour le reste, je pense qu'il s'agit plus de représenter les différents cursus de Raya Lucaria que vraiment des personnages en particulier. Ainsi, on peut identifier le cursus de Carolos et celui d'Olivinus, le cursus de Lazuli, reconnaissable à la couleur de cette pierre bleu nuit, ou celui des sorciers bicéphales que je n'ai pas encore évoqué. Des érudits, considérés comme les élites de l'académie, leur statut leur permettant d'étudier et d'exceller dans tous les domaines de la sorcellerie. Intéressant de constater que malgré les différences, les dissensions, ces sorciers qui se réclamaient autant de la pierre d'éclat vert émeraude que de celle bleu nuit étaient malgré tout considérés comme les plus puissants de l'académie. On peut imaginer que tant qu'ils ne mettaient pas la lune sur un pied d'égalité avec les étoiles, cela ne leur portait pas préjudice. Je dois également évoquer un cursus bien particulier, celui de Hierodas, décerné aux érudits qui firent le choix de poursuivre leurs études dans un style de vie nomade, loin de l'académie. C'est notamment la voie qui fut poursuivie par Willem le sorcier errant, l'un des premiers sans éclat à avoir rejoint le bastion de la Table Ronde. Un homme taciturne en quête de sorcellerie qui suivit la voie le menant jusqu'au courant originel en faisant fi des obstacles. Un sorcier très puissant donc, et il est amusant de constater une nouvelle fois le lien que Elden Ring fait entre le fait de se priver de la vue et l'acquisition d'un certain savoir. Un lien que j'ai longuement évoqué dans ma vidéo « La vérité des yeux ». Dans le même ordre d'idées, le cursus de Aima, qui s'appuie sur des sorcelleries dissuasives comme le canon et le marteau de Aima, et dont les érudits cherchent à faire cesser toute forme de conflit, ce qui pourrait témoigner d'une volonté manifeste de l'académie de ne pas se mêler aux conflits majeurs qui éclatent en Entre-Terre. Lorsque nous croisons Tops pour la première fois en arrivant à Lyurnia, ce dernier nous explique qu'après l'éclatement, l'Académie a fermé ses portes pour éviter toute implication dans ce conflit et a apposé sur ses entrées nord et sud des verrous magiques qui seront traversables uniquement par les sorciers suffisamment puissants pour posséder une clé de pierre d'éclat magique. J'en vois certains parmi vous qui regardent cette vidéo sans s'être abonné, alors si tu ne veux pas finir terrassé par le courant originel, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et au passage, si tu souhaites également me suivre en stream, tape Ludic TV sur Twitch et tu me trouveras rapidement. Allez, bon visionnage. Enfin, comment pourrais-je ne pas évoquer les Cristalliens, ce peuple mystérieux, dont la magie cristalline a gagné sa place à l'académie. Un peuple qui, on peut l'imaginer, fut découvert par les mages à force de miner les galeries cristallines à la recherche de pierres d'éclat. On ne sait pas grand-chose des cristalliens, si ce n'est les quelques sorcelleries qu'ils nous ont laissées. Les cristalliens ont beau ne pas être faits de chair, ils n'en restent pas moins vivants. Leur attachement au principe du courant originel en fait des invités d'honneur aux yeux des sorciers, ce qui explique qu'ils aient immédiatement eu leur place au sein de l'académie. Les cristalliens, êtres insondables, n'ont qu'un seul but, protéger leurs cristaux en attendant le retour de leur créateur qui pourra alors tailler de nouveaux cristalliens dans ces mêmes cristaux. Quant à savoir qui est ce fameux créateur, nul ne le sait. J'ai beau vous avoir fait une présentation exhaustive de toutes ces écoles de pensée cohabitant au sein de Raya Lucaria, ce chapitre porte un nom, dissension. Et qui dit dissension dit que certains sorciers ne pourront pas rester à l'académie. Il apparaît clair que Azur comme Lussat ont à terme mis les voiles, sûrement car leur magie devenait trop puissante, leur connaissance trop profonde pour être comprise de l'académie. Il en est de même pour une autre sorcière, extrêmement puissante et dont les pratiques lui valurent d'être excommuniée et considérée comme une sorcière apostate, son nom, Sélène.
If you recall, I was exiled from the Academy of Raya Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glinstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glinstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos. No matter what we give in return.
Que s'est-il passé à l'Académie pour que certaines de ses plus hautes éminences, comme Sélène, en soient exclues? Si on s'attarde sur les tableaux présents dans le salon de débat, Sélène se tient en bonne place juste à côté de Rénala. Il ne fait aucun doute qu'il s'agisse de Sélène, car en effet, si on prend la peine de la démasquer, la ressemblance est frappante. On peut donc imaginer que Sélène et Rénala entretenaient une relation cordiale, ou que du moins Sélène était plus que tolérée et respectée à l'académie. Sauf que les Caria, et Rénala en tête, ont connu quelques péripéties, qui, on peut le penser, ont dû sérieusement saper leur influence. Après le retour de Radagon auprès de Marika, bien que ce dernier ait choisi de se repentir en offrant un œuf d'ambre contenant la rune de renaissance à Rénala, la matriarche a sombré dans une profonde folie. Je pense que c'est à cet instant que l'influence des Caria a commencé à prendre du plomb dans l'aile et que les chevaliers du Coucou, sentant le vent tourner, ont décidé de s'attaquer au manoir Caria pour prendre le pouvoir. J'ai longtemps pensé que le conflit entre les chevaliers du Coucou et le manoir Caria s'était produit bien avant l'éclatement, bien avant les guerres de Liurnia, et que c'est ce qui avait permis aux Caria de s'emparer de l'académie. En réalité, il n'en est rien, puisque les chevaliers du Coucou semblent être en vérité une création de Radagon. Certains pensent même que le Coucou pourrait directement désigner Radagon et qu'il aurait créé cette caste de chevaliers pour célébrer son union avec Rénala et symboliser l'alliance entre la Maison de la Lune et celle de l'Ordre d'Or. Plusieurs indices vont en ce sens, et notamment la symbolique liée au Coucou. Un oiseau qui choisit de pondre dans le nid des autres oiseaux pour ne pas avoir à s'en occuper. Par la suite, l'oisillon qui éclora en premier sera nourri et éjectera les autres œufs du nid. Une façon de faire horrible, me direz-vous, mais qui rappelle curieusement la relation entre Rénala et Radagon, qui lui a confié son œuf d'ambre, dont elle se sert pour faire renaître en boucle des étudiants de l'académie, trop faibles pour rester en vie. Le double coucou, représenté sur le plastron de ses chevaliers, pourrait également symboliser la dualité Marika-Radagon, un secret bien gardé et un symbole que l'on retrouve curieusement au sommet de l'effigie de la lune de Noxtella. Mais les chevaliers du coucou ont subi une cuisante défaite face au manoir Caria, qui s'était depuis longtemps préparé à cette éventualité en créant des sortilèges comme celui des représailles de Caria, une technique secrètement mise au point par la famille royale dans le seul but de pouvoir faire face à l'académie lorsque cette dernière se montrerait déloyale, ce qui était inévitable, car la lune et les étoiles étaient vouées à se séparer un jour. Ainsi, les chevaliers du coucou sont aujourd'hui utilisés comme marionnettes ou invocations pour défendre le manoir, et de simples attaquants, ils sont devenus malgré eux les plus fervents défenseurs. Il n'empêche qu'après ces événements, l'influence de Rennala sur son académie était déclinante, et je pense que c'est à cette époque que Selene a été placée sur la liste des sorcières apostates. Il faut dire qu'au contraire de Rennala, Selene est loin, très loin d'être une pratiquante modérée, on pourrait presque parler d'extrémisme. Selene ne souhaite pas simplement exploiter la magie des étoiles et de la lune, Selene souhaite devenir les étoiles, et ne faire plus qu'une avec le courant originel. Si vous avez exploré l'académie, vous êtes peut-être déjà tombé sur cette pratique qui consiste à fusionner avec les corps d'autres sorciers pour former un amalgame et devenir une étoile.
Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer, and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. I need him to restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now.
La première fois que vous croisez Selene, cette dernière est retranchée dans des ruines de Nécrolimbe. Si vous vous mettez à son service, elle finira par vous avouer que le corps que vous avez sous les yeux n'est qu'une projection de son véritable corps qui se trouve lui enchaîné, non loin de là, au trépas des sorcières. Mais la quête de Selene ne pourra véritablement commencer que lorsque vous aurez rencontré l'une de ses connaissances, Séluvis, un précepteur au service de la famille Caria. Les précepteurs étaient des sorciers reconnus de l'académie, mais qui se voyaient obligés de porter un masque de confiance dont la bouche était cousue au moyen de fils d'or. Intéressant dans la mesure où ce symbole devant leur bouche rappelle celui que l'on retrouve sur toutes les statues de Radagon. Pas étonnant, car lorsque Radagon prit Rennala pour épouse, il décréta que les précepteurs en magie de Caria devraient porter ces masques pour bien leur faire comprendre qu'ils étaient tenus au secret absolu. Il apparaît évident que les précepteurs étaient donc au courant de la véritable identité de Radagon, à savoir Marika. Mais Séluvis n'est pas qu'un simple précepteur, puisqu'il entretenait une relation avec deux éminentes personnes du bastion de la Table Ronde, Gideon Ofnir et Dolores la Flèche Silencieuse. La relation entre ces trois personnages semblait être sujet à discorde. Et elle s'est mal terminée puisque Séluvis a fini par transformer Dolores en pantin articulé. Car oui, Séluvis est également un créateur de pantins, que vous pourrez lui échanger contre des éclats de lumière stellaire. On revient alors à ce que je vous expliquais en début de vidéo, à savoir que chaque être en entre-terre semble être relié à une étoile, et il faudrait donc sacrifier cette étoile pour pouvoir utiliser un être en tant que pantin.
There's a Glintstone sorcerer by the name of Selene in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her.
The stars alter the fate of the Carian royal family, and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations, and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny.
En remettant à Selene la lettre d'introduction que Séluvis vous a confiée, elle vous expliquera que sa destinée et celle d'autres personnages sont scellées par Radahn, et qu'il faudra donc le tuer pour relancer leur mouvement. Vous pourrez également entrer dans les bonnes grâces de Selene en lui indiquant la position de Azure, le sorcier originel, que vous trouverez reclus à proximité du manoir du volcan. Azure n'a plus rien du sorcier qu'il était, son cerveau ayant été remplacé par une énorme masse de pierres d'éclat. Il semble d'ailleurs que la proximité avec les pierres d'éclat finisse par provoquer une contamination du corps avec une couche de pierre qui se dépose sur l'épiderme. C'est un phénomène que l'on peut observer chez les mineurs notamment, mais aussi sur Smarag, le dragon de Pierre d'Éclat. Mais je m'égare là encore, alors revenons à Sélène qui vous demandera de récupérer la pierre d'éclat primordiale dans son véritable corps, pour la transférer dans un nouveau. Vous faites bien de le faire sans tarder, car quelques instants plus tard, c'est Jérén qui vous emboîte le pas. Ce dernier a en effet été missionné par l'Académie, pour se débarrasser de Sélène, et il est sur vos talons. Pour trouver un nouveau corps à Sélène, il vous faudra trouver la cachette secrète de Séluvis, à proximité de la tour de Rani. Vous y trouverez de nombreux corps, notamment un qui correspond sûrement à celui de Dolores, la flèche silencieuse. Mais surtout, vous tomberez sur un corps de substitution pour Sélène. Elle s'empressera alors de retourner à l'Académie, où vous pourrez l'aider à affronter Jérén.
She was known as the Graven Witch. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy. It is strange, though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. I'm sure she'll turn up eventually, in another body. A sickening thought, but one that won't stop gnawing at me.
Si vous souhaitez alors terminer sa quête, il faudra lui révéler la position de Lusat, l'autre sorcier originel, qui d'après le sort qu'il vous remet, fut témoin des derniers instants d'un grand amas stellaire en s'initiant au courant originel, une vision qui brisa son âme. Un point commun qu'il partage avec Azur, qui lui ne vit que les ténèbres dans le courant originel, dont il sortit à la fois envoûté et apeuré par les abysses. Cela ne semble donc pas être sans danger de côtoyer de trop près le courant originel, une mise en garde que Sélène aurait peut-être dû considérer. Ces manigances commencent à vous apparaître plus claires, car si elle souhaite le corps de Azur et Lusat, c'est tout simplement pour fusionner avec eux en un amalgame destiné à devenir une étoile, une décision qu'elle finira certainement par regretter.
With the body of Master Azur returned, the Academy can restore the primeval current, so that we, fallen children of the stars, might beam with brilliance once again. And when the bodies of Masters Azur and Lusat are together, the Academy can hone the primeval current, so that we, fallen children of the stars, will beam once again.
My friend, I...
Il est temps de vous en retourner auprès de Séluvis, qui ne vous en veut pas d'avoir trouvé sa cachette. Au contraire, ce dernier a un plan qu'il souhaite partager avec vous. Obtenir le plus beau pantin que cet univers ait jamais connu, mais pour cela, il lui faut le corps d'une empyréenne, et c'est sur Rani, sa maîtresse, qu'il jette son dévolu. Mais pour concevoir un breuvage capable de venir à bout de la princesse, il lui manque un ingrédient d'une rareté incommensurable, une lumière stellaire ambrée que vous trouverez au plateau Altus devant une statue de Michaela et Malenia. Ce qui est lourd de sens d'après moi, car cela pourrait signifier que les jumeaux ont réussi à outrepasser leur destinée originelle, qui était certainement de rester de sages empyréens au service de la volonté suprême.
Well, well, you managed to lay your hands on it. The blessed day is finally upon us. Goodness gracious, the way it glistens. Utterly enchanting. To think this was once a demigod's very fate. It's finally complete. The perfection of my draft, gleaming nectar sweet. Give it to Rani and ensure she drinks it. You understand, don't you? That once you have Rani drink my draft, my scheme will come to fruition. And we... Well, will be in a position to claim the very finest puppet ever crafted. Just imagine the pure elation.
Une fois le breuvage fabriqué, vous tentez de l'administrer à Rani, mais cette dernière est bien trop maligne pour se laisser avoir si bêtement. Elle vous demande de quitter les lieux, et alors que vous repartez vers Séluvis, vous trouvez son cadavre gisant dans une position qui n'est pas sans rappeler celle de ses pantins. Non loin de là, un personnage émet des cris de douleur. Il s'agit de Pidia, un albinorique, qui tirait peut-être les ficelles de toute cette histoire depuis le début, même si rien ne tend à prouver que Séluvis était vraiment un pantin. Pidia finit terrassé par ses propres marionnettes, des chevaliers du coucou, qui après des années de servitude, tiennent enfin leur revanche. Il n'est pas chose aisée de s'opposer au destin. Que ce soit Sélène qui est tentée de se rapprocher un peu trop près du courant originel, ou Séluvis qui était prêt à s'opposer à la destinée d'une empyréenne, ces deux-là l'ont appris à leurs dépens. Il faudra plus que cela pour s'opposer à la volonté du cosmos. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je ne vous cache pas que ça a été un vrai travail de titan d'en venir à bout, alors si vous souhaitez soutenir mon activité, n'hésitez pas à le faire via la page Tipeee de la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et pensez à rêver en regardant les étoiles.